Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique In Code We Trust de Noémie Bergès, qui portera sur la nouvelle recommandation de la CNIL sur les cookies, et aussi la chronique La Pituite de Luc sur le thème Dépendance et informatique, une opportunité à saisir. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1A en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause Commune sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h à samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. Et sur Internet, c'est 24h sur 24. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Et la radio diffuse désormais en DAB+, 24h sur 24. Le DAB+, c'est la radio numérique terrestre, avec notamment un meilleur son, et c'est le terme officiel choisi par le CSA. Pour capter le DAB+, c'est gratuit, sans abonnement. Il faut juste avoir un récepteur compatible avec la réception DAB+. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April. Le site web de l'April est april.org, A-P-R-I-L.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission, avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous sommes mardi 27 octobre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, aujourd'hui, Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Isa.
Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ces directs, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fr et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme de cette émission. Nous commencerons par la chronique In Code We Trust de Noémie Bergès, avocate au cabinet d'Une, qui portera sur la nouvelle recommandation de la CNIL sur les cookies. Notre sujet principal sera consacré à l'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres avec Jean-Marc Briand de l'UBAPAR, Anne-Cécile Voisin de l'ADEC 56 et Denis Dordogne d'Infini. Enfin, ce sera la chronique La Pituite de Luc sur le thème Dépendance et informatique, une opportunité à saisir. Nous finirons par Quoi de libre, les actualités et annonces concernant l'April et le monde du libre. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par la chronique In Code We Trust de Noémie Bergès, avocate au cabinet d'Une, qui aujourd'hui portera sur la nouvelle recommandation de la CNIL sur les cookies. Bonjour Noémie.
Bonjour Isabella.
Désolée pour avoir écorché ton nom de famille tout à l'heure, je te laisse la parole.
Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a un peu plus d'un an, j'avais évoqué lors d'une précédente chronique dans Libre à vous, la réglementation sur les cookies, à la suite de la publication des lignes directrices de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en juillet 2019. La réglementation se mettait peu à peu en place, mais n'était pas figée, ce qui ne facilitait pas les choses pour les acteurs concernés. Un an après, qu'en est-il? Il faut bien s'accrocher, car il y a eu des avancées très concrètes, certainement pas définitives. Avant toute chose, revenons sur la base du sujet. Qu'est-ce que les cookies? Les cookies sont les fichiers texte de petite taille qui sont stockés sur un terminal lors de la navigation sur un site internet. On les appelle également les témoins de connexion. On les retrouve pour la gestion des sessions pour les paniers d'achat en ligne, la personnalisation ou encore le pistage. Techniquement, ces cookies vont permettre d'accéder à des informations qui sont stockées sur le terminal d'un utilisateur ou d'accéder à ce terminal pour y inscrire des informations. Il y a donc une dualité entre ces données qui vont être des données très techniques ou contenir des données à caractère personnel, d'où le renvoi vers le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Quel est l'historique de la réglementation ? Lors de la chronique de 2019, j'avais rappelé que la CNIL avait pris une recommandation en 2013 sur les cookies. mais que l'entrée en vigueur du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, du 25 mai 2018, avait obligé la CNIL à revoir sa copie sur les modalités d'utilisation des cookies, compte tenu des nouvelles règles relatives au consentement. Quelle est la législation applicable en France aujourd'hui en matière de cookies? Eh bien, c'est l'article 82 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 qui fixe en partie les règles et qui prévoit qu'un utilisateur doit être informé de manière claire et complète de la finalité des cookies et des moyens dont il dispose pour s'y opposer. Donc, premièrement, il doit connaître la finalité. Deuxièmement, il doit être informé des moyens pour s'y opposer. L'article 82 précise également que le dépôt des cookies ne peut avoir lieu qu'à la condition que l'abonné ait exprimé, après avoir reçu ces informations, son consentement. Le consentement peut résulter des paramètres. Il existe une exception au consentement. C'est lorsque le cookie a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique, ou si ce cookie est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. Comme les règles sont très abstraites, la CNIL vient fournir en la matière des éclaircissements. En juillet 2019, la CNIL avait publié des lignes directrices sur les cookies. Ces lignes directrices étaient venues abroger et remplacer la fameuse recommandation de 2013, qui n'était plus dans la lignée du RGPD. Mais nous savions que ces lignes directrices étaient transitoires, car la CNIL avait annoncé une nouvelle recommandation à venir qui devait préciser les modalités pratiques du recueil du consentement. Cette nouvelle recommandation était attendue pour le premier trimestre 2020, mais la crise sanitaire actuelle a eu des conséquences et le calendrier s'est espacé. C'est donc le 14 janvier 2020 que la CNIL a lancé sa consultation publique pour faire remonter par le public les difficultés d'interprétation suscitées par la réglementation et notamment cet article 82 de la loi Informatique et Liberté. Les contributions ont permis à la rédaction de la nouvelle recommandation qui a été publiée le 17 septembre 2020 aux côtés de nouvelles lignes directrices, ou plutôt de lignes directrices modificatrices, et elles sont complétées par une foire aux questions qui est accessible sur le site de la CNIL. Les nouvelles lignes directrices de la CNIL rappellent d'une part le droit applicable aux cookies, mais elles ont été modifiées pour tenir compte aussi de la décision du Conseil d'État du 19 juin 2020. Nous en avions parlé en septembre 2019, mais nous n'avions pas la décision. Un recours avait été formé devant le Conseil d'État contre le contenu des lignes directrices de la CNIL. Et le Conseil d'État, dans une décision du 19 juin 2020, a annulé certaines parties des lignes directrices de la CNIL dans sa version de juillet 2019. À côté de ces lignes directrices, nous avons la recommandation de la CNIL qui a pour objectif de guider, d'accompagner les professionnels concernés dans leur démarche de mise en conformité grâce à des exemples très pratiques. Qui est concerné? Les lignes directrices et la recommandation vont s'appliquer à la fois aux organismes privés, mais également aux organismes publics soumis à la loi Informatique et Liberté et qui, évidemment, utilisent des cookies. Quels sont les grands principes qui sont confirmés d'ailleurs par la CNIL dans ces lignes directrices? Eh bien, le premier principe à retenir, c'est que si on veut mettre en œuvre des cookies depuis son site, depuis une application, il faut le consentement des utilisateurs. Aujourd'hui, la simple poursuite de la navigation sur un site ou dans une application ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement de l'internaute au dépôt de cookies. L'internaute doit donc consentir au dépôt des cookies par un acte qui est dit positif et clair, c'est-à-dire, par exemple, le fait de cliquer dans une bannière sur un bouton « J'accepte les cookies ». Sans cette acceptation positive et claire, il ne peut pas y avoir de dépôt de cookies qui ne serait pas essentiel au fonctionnement du service de son terminal. Et l'absence de manifestation claire de volonté d'accepter le cookie doit s'entendre comme un refus. Dans ces conditions, la poursuite, et c'est là le changement très important depuis l'entrée en vigueur du RGPD et la construction de cette nouvelle réglementation, c'est que la poursuite de la navigation sur un site ne vaut pas acceptation des cookies. Alors il faut noter quand même que tous les cookies ne sont pas tous concernés par le recueil d'un consentement et certains ne nécessitent pas le consentement de l'utilisateur, notamment lorsqu'ils ont pour finalité de permettre l'authentification auprès d'un service, par exemple, ou lorsqu'ils gardent en mémoire le contenu d'un panier d'achat sur un site marchand ou qu'ils génèrent des statistiques de fréquentation. Une fois que le consentement est donné, il faut aussi que l'utilisateur puisse le retirer facilement et à tout moment. Inversement, on peut retirer son consentement après l'avoir donné. La CNIL recommande d'ailleurs plusieurs solutions très pratiques pour permettre à l'utilisateur de gérer et retirer son consentement de manière facilement accessible tout au long de sa navigation. Par exemple, elle propose la mise à disposition d'un lien accessible à tout moment depuis le site qui portera par exemple une dénomination descriptive telle que « Gérer mes cookies » ou dans le cadre d'un module de paramétrage qui serait accessible sur toutes les pages du site avec une icône sur les cookies qui permettrait à l'utilisateur d'aller cliquer sur cette icône. Lorsqu'on s'assure que le retrait du consentement peut se faire simplement et à tout moment, elle recommande également de prévoir un mécanisme qui va permettre de gérer et de retirer le consentement dans une zone qui soit visible. Et c'est là où les solutions qu'elle propose, c'est pour accompagner les opérateurs pour qu'ils sachent proposer les mécanismes pour que ce soit visible. Alors, une fois qu'on a la preuve, une fois qu'on a recueilli le consentement ou qu'on a un refus, il faut aussi que la personne qui est derrière le site internet conserve la preuve du consentement, libre, éclairé, spécifique et univoque. Il n'est pas possible aujourd'hui de renvoyer au paramétrage du navigateur pour collecter le consentement de l'utilisateur, puisqu'il faut un consentement qui soit spécifique, éclairé, libre, univoque. Le deuxième grand principe, à côté de celui du consentement, c'est l'information des personnes. C'est-à-dire qu'une personne qui se connecte à un site, elle doit savoir pour quelle finalité il peut y avoir des cookies qui vont être déposés sur son terminal et quelles vont être les conséquences si elle accepte ou si elle refuse ces cookies. Elle doit également connaître l'identité de tous les opérateurs qui vont avoir accès aux informations recueillies via les cookies qu'elle aurait acceptées. Dans sa recommandation, la CNIL propose des modalités très pratiques pour recueillir le consentement, mais aussi pour informer de l'identité des responsables du traitement qui vont obtenir éventuellement le consentement pour déposer un cookie, et aussi des modalités pratiques pour apporter la preuve du consentement. Elle recommande aussi une symétrie quant à la durée de conservation du consentement avec la même durée de conservation pour le refus, c'est-à-dire que si en tant qu'utilisateur je me connecte à un site que j'accepte les cookies ou en parallèle si je me connecte à un site et que je refuse des cookies, la durée de conservation de mon acceptation, de mon consentement ou de mon refus doit être identique ou similaire. Alors, peut-on redemander le consentement d'un utilisateur après qu'il ait refusé une première fois les cookies? Oui, évidemment, mais ça ne doit pas être fait, par exemple, pendant la même navigation sur le site en question. Sinon, ce serait trop facile si toutes les deux minutes, on demande le consentement. Se pose donc la question de la durée de conservation. Et c'est vrai que dans la recommandation de 2013, la CNIL recommandait une conservation de 13 mois. Aujourd'hui, elle a changé sa position. Elle recommande de déterminer la durée de conservation au cas par cas au regard du site et des spécificités de l'audience. Elle semble proposer comme étant une bonne pratique une durée de 6 mois. Donc 6 mois pendant lesquels on peut conserver le consentement et les informations qui ont été recueillies à travers ce consentement. On s'était aussi interrogé à savoir si la CNIL avait un droit de regard sur les données qui étaient collectées et qui n'étaient pas des données à caractère personnel. Puisqu'effectivement, comme je vous l'ai rappelé en début de cette chronique, les cookies peuvent collecter à la fois des données à caractère personnel, mais des données techniques. La CNIL règle la question dans sa foire questions, puisqu'elle explique qu'elle est chargée de veiller à la conformité de tout traitement de données relevant du champ d'application de la loi informatique et liberté, et que les dispositions étant à la fois de l'article 82 concernent à la fois les données à caractère personnel et des données techniques, elle a donc ce rôle à jouer. Quel est le calendrier pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation, cette recommandation, ces lignes directrices? Alors, évidemment, le plus tôt le mieux. Mais la CNIL a quand même proposé une période d'adaptation qui ne devrait pas dépasser 6 mois. Donc, au plus tard, fin mars 2021, il faut que les opérateurs se soient mis en conformité. Évidemment, la CNIL va continuer à poursuivre les manquements à la réglementation antérieure. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas mis en place les nouvelles règles, attention à veiller quand même à ce que les anciennes règles aient été mises en œuvre pour éviter toute difficulté. Et évidemment, il faut quand même savoir que la CNIL a toujours la possibilité de sanctionner indépendamment de cette période d'adaptation qu'elle propose si elle constate une atteinte particulièrement grave au droit au respect de la vie privée. Donc il faut quand même aussi continuer à suivre l'actualité en la matière car il y a une directive qui est en cours et qui pourrait encore changer les règles. Et surtout, en cas de doute, eh bien, contactez un professionnel pour vous assurer de la conformité de la réglementation en matière de cookies. Voilà pour cette présentation sur la recommandation et les nouvelles lignes directrices de la CNIL.
Merci beaucoup, Noémie. C'était très clair. Je te dis à bientôt, peut-être avec des nouvelles, toujours sur la CNIL et les cookies.
À très bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Nous allons faire maintenant une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Fredin du site aubutdufil.com nous fait découvrir trois morceaux de l'auteur et compositeur finlandais Otto Almén, qui est notamment inspiré par les univers héroïques fantasy. Nous allons donc écouter le premier morceau de Otto Almén qui s'appelle Airship Thunderchild. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Airship Thunderchild par Otto Almén, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3. Cette licence permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous retrouverez les références de ce morceau sur causecommune.fm et sur april.org. Vous trouverez une présentation de l'artiste sur le site aubutdufil.com. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Abel Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'accompagnement des associations à l'utilisation de logiciels libres, avec Jean-Marc Briand de l'UBAPAR, Union Bretonne pour l'animation des pays ruraux, Anne-Cécile Voisin de l'ADEC 56, association membre de l'UBAPAR, et Denis Dordogne d'Infini, hébergeur associatif, membre du collectif Chaton. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Bonjour à Jean-Marc, Anne-Cécile et Denis. Tout le monde est là ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission pour parler de l'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres. Je vous propose de faire une courte présentation de votre structure, donc de dire aussi la fonction que vous occupez à l'intérieur de cette structure. Je propose de commencer par Jean-Marc, puis Anne-Cécile et puis Denis.
D'accord. Donc moi c'est Jean-Marc, je travaille à l'UBAPAR, donc l'Union Bretonne pour l'animation des pays ruraux, et qui est une fédération d'éducation populaire donc sur la région Bretagne, qui fédère environ 35 à 40 associations, structures associatives sur les territoires ruraux de la région, autour de l'animation communale ou intercommunale. Parfois, ce sont des structures d'accueil ou bien des associations plus thématiques autour du sport en milieu rural, de la promotion ou de la défense des langues minoritaires comme le breton et le gallo en Bretagne, et puis aussi sur les aspects environnementaux. Et voilà, pour aller vite.
Merci. Et sur les aspects aussi culturels, comme c'est le cas de l'association ADEC 56, je laisse la parole à Anne-Cécile.
Oui, bonjour. Donc moi, je suis déléguée de l'ADEC 56, qui est un centre de ressources pour le théâtre des amateurs en Morbihan et qui est donc affilié à l'UBAPAR, puisqu'on est, on accompagne les troupes de théâtre amateurs dans le Morbihan et qui sont pour la plupart les acteurs culturels de ces territoires ruraux.
Très bien, merci. C'est le tour de Denis Dordogne pour l'association Infini.
Oui, alors l'association Infini est une vieille association qui date de 1995, qui originellement fournissait l'accès à Internet pour Brest, et puis aujourd'hui fournit des services sur Internet, fournit des services à ses adhérents de type chaton, donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. On a déjà fait deux émissions dessus, donc je pense qu'il y aura les liens sur la page de l'émission.
Je confirme.
Voilà. Et du coup, actuellement, on participe aussi à défendre le logiciel libre localement. Donc on est membre de l'April depuis une quinzaine d'années, je pense.
Très bien, merci.
Pour préciser quand même, on a environ 350 adhérents, dont une bonne moitié, c'est des associations, et 5 ou 6 qui sont des fédérations d'associations.
350, j'ai bien compris ?
Oui, à peu près.
À peu près. D'accord. Donc, vous aurez compris, il y a 3 structures de la Bretagne, c'était facile, et on a déjà compris quel est le lien entre l'UBAPAR et l'ADEC. L'ADEC est affiliée de l'UBAPAR, mais il y a aussi un lien entre l'UBAPAR et Infini. Je laisse Jean-Marc expliquer pourquoi.
Oui, l'UBAPAR est adhérent à l'association Infini depuis très longtemps, je pense plus de 20 ans. Car les premiers sites internet que nous avons mis en ligne l'étaient via les services d'hébergement de l'association Infini, déjà à l'époque. Donc on est, je pense, des adhérents de longue date parmi les 350 adhérents de l'association Infini. Et bien sûr, on s'est rapproché d'eux très naturellement parce qu'on défend déjà la proximité, la localisation en fait des personnes physiques qui font vivre, y compris les services de type numérique. Et puis parce que nous militons aussi pour le logiciel libre, même si à l'époque c'était un peu tôt pour nous, mais on s'y est mis assez rapidement dans la foulée un peu du début des années 2000, on va dire.
Très bien, donc si j'ai bien compris, quand vous êtes rapproché à l'association Infini, donc l'hébergeur associatif Infini, vous êtes rapproché pour des raisons de proximité, mais vous n'étiez pas encore peut-être à fond pour le logiciel libre. Mais vous saviez déjà peut-être ce que c'était, mais ce n'était pas encore la raison principale.
Alors, peut-être pas, non. C'était un peu tôt. Moi, je n'étais pas encore dans la maison UBAPAR à l'époque. Mais j'y suis arrivé très peu de temps après, et c'est vrai que le logiciel libre était encore un petit peu trop, un peu en essence, quoi. C'est-à-dire qu'il était quand même compliqué de mettre à l'époque entre les mains de professionnels de l'animation du territoire des outils qui étaient en phase un petit peu de maturation à l'époque, quoi. Donc nous, on s'y est penché pour essuyer à quelque part un peu les plâtres pour nos adhérents assez rapidement. Donc comme je le disais, c'était assez tôt dans le début des années 2000. Et dès qu'on s'est senti capable d'accompagner nos adhérents, on a commencé à leur expliquer qu'il y avait des alternatives au logiciel qu'on qualifiait pas encore à l'époque de privatif, mais qu'on pouvait déjà qualifier de propriétaire. Oui.
Et effectivement, si vous allez voir sur le site de l'UBAPAR, votre engagement en faveur de la promotion du logiciel libre est vraiment bien mis en avant. C'est vraiment quelque chose, on voit bien que c'est quelque chose de très important pour vous. Donc je voulais savoir quels sont les moyens, à part le site web, que vous mettez en place pour promouvoir le logiciel libre auprès de vos membres, pour leur expliquer l'intérêt d'utiliser ce type de solution.
Eh bien, alors là-dessus, on se cherche toujours un peu parce que c'est loin d'être évident d'accrocher un peu l'intérêt sur ce qui devrait n'être qu'un outil pour la plupart des adhérents de l'UBAPAR, qui, dont le cœur de métier est souvent un peu en dehors de tout ce qui touche au numérique. Par contre, comme tout le monde, il est difficile d'échapper à ces logiques-là aussi. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est des formations déjà au logiciel libre auprès de nos adhérents, et on l'ouvre même vers l'extérieur pour en disant que nos communications via l'infolettre, via notre site internet. Des logiciels généralement qui restent dans les préoccupations, on va dire, des professionnels de l'animation, c'est-à-dire pouvoir utiliser un logiciel comme GIMP pour le traitement des images pixelisées, Inkscape pour les images numériques plutôt vectorielles, et puis Scribus pour la PAO, publication assistée par ordinateur, des outils importants pour générer ses propres supports de communication par rapport aux activités que nos adhérents peuvent proposer sur leur territoire. Et puis, il y a des logiciels libres plus en rapport avec la gestion associative ou des outils de travail collaboratif à distance aussi pour pouvoir permettre à nos adhérents de travailler sur tout le territoire, faciliter, on va dire, les échanges entre les divers professionnels de nos métiers sur l'ensemble du territoire sans nécessairement recourir à des réunions et à des déplacements intempestifs, on va dire. Après, au-delà de la formation proprement dit, il y a parfois des actions pures de communication autour de la promotion du libre. On a eu l'occasion d'organiser sur certains territoires volontaires des soirées projection débat, par exemple, autour, je pense, la dernière occasion où ça s'est présenté, c'était avec le film Nothing to Hide.
Si je me souviens bien, c'était à l'occasion du libre en fête. L'initiative oui, coordonnée par l'April.
Voilà, c'est ça. Oui, on essaie de se tenir justement un peu dans le créneau de Libre en fête. Tous les ans, on essaie d'organiser quelque chose. C'est pas tous les ans possible, mais on essaie le plus souvent possible de répondre présent à cette initiative-là. Et puis, on a aussi eu l'occasion d'organiser une journée de rencontre un peu autour de l'éducation populaire et du numérique, qu'on avait intitulé « Le numérique, ça nous regarde », en jouant un peu sur l'ambiguïté du terme, entre le fait que ça nous concerne et le fait que ça nous surveille aussi un peu.
Un beau titre.
Oui, ouais. Et ça nous avait permis justement d'attirer un peu l'attention des gens qui sont comme beaucoup plus... je dirais en consommation de services numériques ou d'achat de matériel numérique sans trop savoir exactement ce qui se cache derrière, comment ça fonctionne et puis surtout quels sont les acteurs monopolistiques qui sont derrière. Voilà, discuter des enjeux avec les gens, quoi, directement, le plus directement possible. Alors après...
C'est dans la logique de l'éducation populaire en plus. Mais cette rencontre était du coup proposée pas qu'à vos membres, mais à un public plus large, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Nous, on communique publiquement en fait de nos actions et on n'est pas toujours. Enfin, ça va souvent au-delà de nos seuls adhérents. Il y a pas mal de gens qui se montrent intéressés pour nous suivre ou. Venir écouter ou discuter avec nous sur ces thématiques-là.
Ça, c'est très important parce que ça veut dire que vous faites la promotion, pas que auprès de vos membres, mais auprès de beaucoup plus de personnes. Donc, vous avez vraiment un rôle important pour le logiciel libre sur le terrain. Et je voulais savoir quelle est la réponse de vos membres. Vous m'avez dit à peu près 35 membres par rapport à la proposition de formation, de service. Est-ce que vos membres sont intéressés, se montrent intéressés, s'inscrivent aux formations? Quelle est leur réaction?
C'est variable en fait, parce que c'est vrai qu'à Libapar, nous on n'a pas vocation à aider les gens à s'équiper de matériel ou de logiciels propriétaires. Donc notre angle, il est très défense du logiciel libre, et tout le monde n'est pas forcément prêt à prendre ce risque-là. Enfin, ils le voient comme un risque souvent parce qu'ils savent pas très bien ce qui se cache derrière, parce qu'il y a parfois quelques réticences au changement aussi. Quand on a mis du temps à maîtriser un environnement comme celui de Windows, pour ne pas le nommer, et certains logiciels propriétaires, on n'a pas forcément tout de suite l'envie de changer ces habitudes-là.
La crainte du changement.
Ouais, il y a un certain frein au changement. Et puis, mais bon, c'est, encore une fois, c'est un effet qui peut se comprendre. Et heureusement, c'est pas forcément systématique. Heureusement, on a, par exemple, Anne-Cécile pourra parler d'une association un peu entre l'UBAPAR et ses membres qui date depuis longtemps et qui justement est en osmose dans l'évolution et dans la pérennité, on va dire, d'une installation et de l'utilisation de logiciels complètement libres depuis pas mal d'années.
Tout à fait.
Donc, c'est variable entre voilà des adhérents qui sont plus volontaires, qui voient bien l'enjeu et qui ont envie de s'affranchir d'un certain nombre de dépendances numériques, et puis d'autres qui ont besoin de plus de temps pour franchir le pas.
C'est pour ça que le sujet principal, ça s'appelle l'accompagnement des associations, parce qu'on ne peut pas prétendre non plus que le changement arrive sans l'accompagnement, sans quelqu'un qui aide, qui donne des tuyaux, qui soit présent.
Voilà.
Mais du coup... Je suis très contente de pouvoir avoir un témoignage d'Anne-Cécile Voisin, directrice de l'association ADEC 56, membre UBAPAR, parce que c'est typiquement le cas d'une association qui a répondu oui à l'appel, essayer d'utiliser l'informatique libre. Donc Anne-Cécile, je voulais savoir un petit peu comment ton association s'est rapprochée des logiciels libres, par exemple si elle les connaissait déjà avant d'être adhérente de l'UBAPAR, ou si vous avez commencé parce que vous étiez membre de l'UBAPAR, vous avez vu passer des annonces de formation. Je te laisse la parole.
Je pense pas qu'on les connaissait avant d'être membre de l'UBAPAR. Alors moi je suis arrivée, on était déjà membre de l'UBAPAR, mais voilà, je pense pas qu'on utilisait les logiciels libres. Moi, si je remonte un peu la chronologie, ça, je pense que la première utilisation, c'est arrivé sur au moment de l'informatisation de notre fonds documentaire. En fait, on a une bibliothèque spécialisée en théâtre, on voulait informatiser le fonds, et là l'UBAPAR, l'association à laquelle on était déjà affilié pour d'autres raisons, des raisons affinitaires en fait, l'UBAPAR avait une solution avec un logiciel libre qui est de gestion de fonds de bibliothèque, hein, PMB, et ce logiciel, il répondait vraiment aux besoins de l'ADEC, et d'autant plus qu'en plus il nous a permis de personnaliser des éléments pour répondre encore plus que n'importe quel logiciel propriétaire à la spécialité qu'était notre fonds et du moteur de recherche qu'on voulait associer à ce fonds-là. Donc voilà, on a commencé comme ça, par un logiciel, et puis petit à petit, on s'est intéressé, et puis ça, il y a eu plein d'autres utilisations depuis qui sont amenées par l'UBAPAR, et parfois parce qu'on a un besoin, mais d'autres fois parce que l'UBAPAR nous présente quelque chose, et donc on saute le pas, quoi.
On m'indique qu'il y a une question sur le salon de chat. D'accord, donc c'est pas pour Anne-Cécile, donc là je la ferai peut-être plus tard. Donc si j'ai bien compris, vous avez commencé par ce logiciel parce qu'il était proposé par l'UBAPA, vous êtes rendu compte que ça matchait complètement avec vos besoins. Est-ce que vous étiez conscient aussi de l'éthique qui était derrière ce logiciel ?
Je pense pas au départ, en tous les cas pas tous, dans l'équipe ou encore moins dans les adhérents. Moi j'ai souvenir le moment de la conviction et le moment qui fait que voilà on conscientise aussi que c'est un choix. Moi c'était après une projection d'un documentaire justement. L'UBAPAR en organisait comme ça sur les territoires et c'est après ce film là, un échange qui a suivi que là moi. Enfin, voilà, on était plusieurs des équipes, d'ailleurs des associations, pas que l'ADEC, mais d'autres associations, à se dire que, en tant qu'association d'éducation populaire, en fait, on s'y retrouvait vraiment dans les valeurs qui étaient portées par le libre, et que, voilà, il y avait, enfin, ça devenait évident aussi. Et ça, cette conviction, elle permettait sans doute de dépasser les résistances au changement dont parlait Jean-Marc, parce que c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai souvenir au tout début sur certaines choses. Peut-être sur les suites bureautiques ou sur des outils où il faut se refaire la main, la résistance, elle venait aussi du fait que les interfaces ou des logiciels propriétaires, elles sont souvent très séduisantes, elles paraissent très efficaces. Donc quand on a cette vision de l'efficacité un peu tac-tac, tout est fabriqué pour moi, j'ai plus qu'à à charger, tout s'est transformé comme par magie derrière, on a un peu de mal à se dire « Ah oui, il faut que j'aille dans quelque chose qui est peut-être moins avenant, qui est moins coloré, et puis peut-être faire un peu plus par moi-même, mais parce que je peux faire plus de choses finalement et j'ai un potentiel plus grand. » Mais bon, voilà, ce passage-là, il mérite d'être convaincu quand même par le sens du choix pour se motiver à... Voilà, peut-être quitter des interfaces qui nous ont simplifié un peu le travail au départ, quoi.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voulais savoir, tu parles toujours on devait vaincre une petite résistance. Tu parles de combien de personnes et je voulais savoir c'est une personne en particulier ou plusieurs personnes qui ont réussi à convaincre les autres. Comment vous avez justement réussi à rassurer.
Après là c'est l'équipe des permanents surtout hein, qui est confrontée au quotidien, donc on est trois permanents et à l'époque on devait être quatre d'ailleurs, et puis on accueille aussi des volontaires en service civique qui chaque année découvrent complètement le livre immergé d'un coup d'un seul dans cet univers quand ils arrivent ici. Non, je pense que c'est à chaque fois l'UBAPAR qui d'ailleurs refait le travail de conviction, parce qu'on fait régulièrement des formations aussi professionnelles, en fait, en compagnie de l'UBAPAR sur un nouvel outil. On passe une journée ensemble. Jean-Marc resitue à chaque fois aussi les enjeux de ce choix-là, donc ça remobilise. On a accueilli des formations de bénévoles aussi pour les bénévoles de l'association, pour porter ensemble connaître ensemble des certains outils qu'on n'utilise pas tout le temps tout de suite en fait, mais ça permet sans enjeu de découvrir des choses et puis de pouvoir les réactiver au moment où ça vient. Et surtout là, la formation avec les bénévoles, c'est sur les outils collaboratifs, et ça c'était chouette parce qu'on n'avait pas vraiment de besoin au départ et qu'on a découvert tout un panel de choses qu'on a pu réactiver, d'autant plus pendant le confinement où on était vraiment on avait besoin de ce renfort numérique pour travailler encore ensemble. Et voilà un petit peu les étapes de pour faire progresser. Je pense que maintenant l'association elle-même a décidé qu'elle voulait promouvoir aussi ce choix-là, et donc c'est quelque chose qu'on remet plus en débat et que l'on défend par conviction. Et donc je pense que maintenant on cherche moins finalement à convaincre les uns et les autres qu'on est plus dans l'affirmation en fait de ce choix-là comme évident et puis voilà, on essaye de démontrer maintenant que c'est un choix pertinent quoi.
Merci, c'est vraiment une belle évolution. On essaie un logiciel, ça marche bien, on est content, on découvre l'éthique qui en est derrière et on devient ambassadeur de l'éthique de l'informatique libre. Je voulais savoir si vous faites aussi la promotion auprès de vos membres par rapport au logiciel libre.
Plus avec ces formations de bénévoles. Alors après aussi sur le site internet, mais parce qu'il y a à l'intérieur de l'association, il y a d'autres personnes qui sont militants aussi de ce sujet-là et qui ont pu faire par exemple des fiches pratiques pour utiliser GIMP pour faire des affiches de spectacles ou partager d'autres fiches pratiques comme celle-ci, voire même développer. En ce moment, on a une équipe d'éclairagistes qui développe son propre logiciel libre.
Bravo.
Pour la régie de spectacle. Donc, eux, voilà, continuent d'œuvrer avec les autres membres. Mais nous, c'est vrai que c'est plus avec les membres du conseil d'administration et l'équipe professionnelle qu'on est force de proposition pour se former. Et voilà, au grand public, on est plus dans l'affirmation, mettre en avant ce choix, mais pas forcément le... accompagner les autres dans cette démarche, quoi.
D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons faire une pause musicale. Voilà, donc nous allons écouter un deuxième morceau de l'artiste Otto Almen, sélectionné par notre programmateur musical Eric Frodin du site Au bout du fil, aubout-du-fil.com. Le titre du morceau, toujours inspiré par les univers Heroic Fantasy, est Death is Just Another Path. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune,
93.1.
Nous venons d'écouter Death is Just Another Path par Otto Almen, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY 3. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sous le site causecommune.fm. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April. Le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui est consacré à l'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres. Nous en discutons avec Jean-Marc Briand de l'UBAPAR, Anne-Cécile Voisin de la DEC 56 et Denis Dordogne d'Infini. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Donc nous allons reprendre notre discussion. Et cette fois, je m'adresse à Denis. Donc, des questions pour Infini. Je voulais savoir comment les associations frappent à votre porte. C'est-à-dire, vous êtes un hébergeur associatif. Vous avez pas mal de membres, donc quelques centaines. Je voulais savoir comment vous vous faites connaître et comment les associations arrivent chez vous. C'est la proximité, c'est le fait que vous proposez des services sur logiciel libre.
Bouche-oreille. C'est vraiment bouche-oreille parce que historiquement, c'est beaucoup d'associations qui sont membres et comme les bénévoles de l'association, ils sont souvent dans plusieurs. C'est comme ça que le message passe. Au final, la très grande majorité des associations quand c'est Internet, c'est chez Infini.
Ce sont des associations bretonnes ou ça peut être des associations ailleurs en France ?
C'est essentiellement en Brest. Après, on en a un peu dans le Finistère et un peu dans la Bretagne et puis un peu dans la France entière. Mais c'est surtout Brest et avec la métropole.
Donc, vous n'avez pas besoin en fait, de faire énormément de communication. Les associations viennent directement bouche à oreille. Mais ce que, pour moi, c'est important parce que si le bouche à oreille marche, ça veut dire que les services que vous proposez marchent bien et que vous faites un très bel accompagnement. J'imagine que vous avez des expériences, des retours très, très positifs.
Ah, c'est ça, c'est notre grand point fort, c'est l'accompagnement. Hein. C'est l'association qui adhère, elle n'est pas laissée à l'abandon. Elle peut venir voir sur place. Enfin, en ce moment, elle ne peut pas parce que le Covid, mais quand c'est ouvert, elle peut venir voir le salarié sur place, prendre rendez-vous pour lui expliquer comment ça fonctionne, comment on se connecte, comment on voit des fichiers sur Internet, des choses comme ça. Donc nous, comme on n'utilise que des logiciels libres, on ne représente que des logiciels libres, hein, c'est logique. Et après, les associations moi, je continue sur ta question suivante, tu poses, qui va être qu'est-ce qu'on fait pour présenter le logiciel libre. Donc ce qu'on fait, nous, en plus de la présentation qu'on fait aux nouveaux adhérents, on essaie de faire 5 ou 6 rendez-vous infinis par an. Donc c'est quoi rendez-vous infini ? C'est un soir, on prend l'apéro et puis on fait une présentation de logiciel libre. Donc je sais plus si c'était quoi les derniers, il y a eu SPIP, il y a dû avoir de médias. Enfin, alors, bon, SPIP, ça fait longtemps maintenant, vu que cette année, il n'y en a pas eu.
SPIP, c'est un tu vas l'expliquer.
Un outil pour créer des sites.
Tout à fait. Et l'ADEX en concis, c'est sur SPIP, d'ailleurs.
Oui.
J'étais interrompu, Denis, je te redonne la parole. Tu parlais des rendez-vous infinis.
Voilà. Sinon, il y a quelque chose qui est très bien, qu'on donne à toutes les associations quand elles viennent. C'est le guide Libre Association, qui a été fait par le groupe de travail Libre Association de l'April. Donc, s'il y en a qui veulent voir, un site libre-association.info. Et ce guide est très bien. Ça reprend des logiciels utiles pour les associations, pour faire de la compta, pour faire gestion des membres, pour faire tout ce qui est utile dans une association, quoi. Et ce guide est vraiment bien là-dessus. Il rend des réponses pour tout.
Et ce guide est disponible. Vous pouvez acheter la publication sur papier, mais vous pouvez aussi le télécharger parce que bien évidemment c'est sous licence libre, donc téléchargeable librement, partageable, modifiable.
Pour les Brestois, quand ce sera ouvert, récupérable puis infini gratuitement.
Et voilà. Et tu disais justement, vous êtes hébergeur associatif, donc c'est surtout hébergement des sites, liste de diffusion, mais vous avez aussi un local qui permet de voir les personnes, donc il y a aussi une relation de visu, quand c'est possible, pas aujourd'hui peut-être, et je pense que ça aussi c'est hyper important. On se sent plus rassuré quand on peut parler avec quelqu'un. Enfin, ce que je viens de dire, c'est assez logique. Je voulais savoir, c'est des questions qui peuvent être adressées, aussi à Oubapar. Quel est, d'après vous, le bilan que vous faites par rapport à l'évolution dans les pratiques des associations dans votre périmètre d'action. Est-ce que vous avez vu, parce qu'on parle de deux associations, de deux structures qui existent depuis vraiment plusieurs années maintenant, voire 20, 25 ans. Donc, est-ce que vous voyez une évolution ? Est-ce que il y a eu comme disait Anne-Cécile tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un pic pendant cette période de confinement ? Quel est votre retour sur ça ? Jean-Marc, par exemple.
Oui, alors c'est vrai que si on parle des 20 dernières années, on va dire, il y a eu une évolution assez lente, on va dire, une prise de conscience progressive, peut-être au fil des actions qu'on a pu mener pour accélérer les choses. Mais alors, s'il est question de cette année-là, là, j'ai l'impression quand même que beaucoup, beaucoup de gens ont réalisé l'importance que le numérique pouvait prendre dans leur existence. Et pour cause, hein, puisque c'est presque devenu le seul moyen ou de travailler ou de voir ses proches pendant quand même le mois de mars et avril. Je pense plus que maintenant les gens doutent de l'importance que le numérique peut prendre dans leur existence. Après, est-ce qu'ils sont plus maintenant prêts à aussi imaginer quel genre de numérique ils veulent pour prendre en charge ces parties même de leur vie et de leur existence? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais et puis peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai personnellement l'impression quand même que là on a peut-être mis le pied dans la porte de quelque chose, quoi. Si utiliser les services numériques, c'est enrichir les GAFAM, étant donné l'incertitude économique dans laquelle on est plongé tous par ailleurs, il y a quand même de quoi se poser quelques questions, quoi. Est-ce qu'on n'a pas quand même tous intérêt à reprendre la main sur ces aspects-là de nos vies?
Et vous l'avez vu concrètement aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des membres ou des personnes qui vous ont écrit, contacté? C'est une impression ou vous avez vraiment des retours concrets?
Ben, pardon, je poursuis, mais très brièvement, on m'a demandé des choses du type, est-ce que tu connais un logiciel de visioconférence libre qui ne me surveille pas, quoi, par exemple?
Très bien. Et vous avez répondu?
Oui, j'ai répondu, mais c'est vrai que...
Et lequel lequel vous avez proposé?
J'en ai deux qui me viennent spontanément à l'esprit. C'est le logiciel Jitsi Meet, utilisé notamment par Framatalk et pas mal de services des chatons aussi qui ont des instances de ces logiciels-là. Et puis, je pense aussi à Big Blue Button, qui est une alternative intéressante aussi. Après, si on veut réunir 30 personnes, j'ai peur qu'on tombe sur des problèmes de techniques, de flux, parce que l'avantage que conservent quand même actuellement les solutions propriétaires, c'est qu'ils ont des moyens tellement colossaux à y affecter qu'ils sont capable de conserver un service fiable au-delà de plusieurs dizaines, voire centaines d'utilisateurs, ce qui est pas réaliste quand on héberge soi-même sa solution, quoi, avec un serveur qui est forcément limité en volume, en taille et en ressources.
Pour Big Blue Button, vous redirigez vers quelle structure? C'est l'UBAPAR qui a une instance ou bien vous redirigez vers autre chose?
Moi perso, je me suis dirigé vers une association qui s'appelle faitmaison.net, qui propose une instance, mais je pense qu'il y en a d'autres, hein. Je suis tombé sur celle-ci, ça fonctionne bien pour mon usage, et enfin pour l'usage que j'en ai avec mes collègues. C'est essentiellement un outil d'équipe, hein, pour l'instant. On travaille à distance via ce logiciel-là, de préférence. Et voilà.
Très bien. Je passe la parole à Denis. C'est la même question. Quel est le bilan? Quel est ton ressenti? Quels sont aussi... Je tutoie Denis parce que c'est un bénévole de l'April. Je le connais depuis un moment. Quel est ton ressenti et quelles sont aussi les actions concrètes, les retours concrets qui te font dire qu'il y a eu une évolution, si on l'a eu?
Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris pendant le confinement. C'est Infini, on n'a pas peut-être posé d'outils particuliers. On n'a pas eu beaucoup de demandes parce qu'on fait beaucoup de communication sur les chatons, donc les gens ont su trouver où c'était. Et j'ai trouvé aucune invitation pour une réunion avec Google, pour une réunion chez Zoom, des trucs. J'ai vu passer que des trucs libres. Donc je crois que le message est bien passé, en fait. Donc voilà, je sais pas quoi dire. J'ai pas fait grand-chose, mais ça marche bien.
Tu quand tu dis je vois pas passer des invitations sur Zoom.
Parce que je suis membre de plusieurs stations en Bretagne.
D'accord.
Allô? Donc, je pense de plusieurs associations à Brest et j'ai vu qu'effectivement, il n'y a plus de demande là-dessus. Quoi.
C'est une super bonne nouvelle.
Ouais, oui, les chatons, ils sont vraiment bien comme système pour répondre à ces besoins. C'est vraiment fait pour ça.
Tout à fait. Il y a des questions qui sont arrivées du public. Donc, je suis contente de vous adresser à quelques questions du public. La première est par rapport au lien que Loubapar, mais aussi Infini, tisse avec les GUL, c'est-à-dire les groupes d'utilisateurs utilisatrices de logiciels libres. Sur le terrain. Est-ce qu'il y a des liens forts? Est-ce que vous investissez du temps et de l'énergie pour construire des liens? Est-ce que vous vous contactez souvent? Est-ce que vous faites des choses ensemble? Denis, cette fois, en premier.
Alors, les associations qui font du logiciel libre, il y en a beaucoup. En fait, il y avait plusieurs fois qu'on veuille se regrouper, mais par exemple, le dernier groupement qu'on a fait, c'était bien, on travaillait tous ensemble, et puis finalement, on a fait une structure de plus. Donc, avant, on était nombreux, maintenant, on est nombreux plus un. Et donc, chacun travaille un peu dans son coin, c'est dommage, mais c'est. Mais en même temps, on se complète. Hein, donc, voir dans l'agenda du livre, on est 4 ou 5 associations qui sont déclarées de Brest, et chacun fait des animations, et on ne se perche pas sur les pieds. On ne travaille pas trop ensemble, quoi, directement.
D'accord. Et Jean-Marc ?
À Loubapar, on est plus, dans la coordination, parce que comme on a un rayon d'action plutôt régional, on se au coup par coup plutôt des liens avec des groupes d'utilisateurs Linux locaux. Je pense notamment à l'occasion de la journée éducation populaire et numérique qu'on avait organisée à Kergris-Moëlou, on s'était rapproché d'une association de territoire qui était tout près à Rostrena, qui a été d'ailleurs très 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 présente hein, sur cette journée-là, qui a bien encadré ses ateliers et tout. Mais au coup par coup, donc je disais, quand on a eu l'occasion d'organiser des projections soirées débat, là aussi on faisait appel aux groupes un peu locaux qui pouvaient être intéressés de venir nous épauler pour discuter avec les gens à l'issue de la projection. Ou bien sur des actions, il nous est arrivé aussi de venir en soutien d'initiatives locales de type install party quand on était contacté par justement un groupe plutôt d'utilisateurs locaux qui souhaitaient mettre en place quelque chose. Donc les liens, ils sont plutôt comme ça pour nous au coup par coup. Et bien sûr, ils sont toujours les bienvenus et ça fait toujours plaisir de rencontrer vraiment concrètement des gens motivés aussi et compétents sur le terrain.
Merci pour ces témoignages. Tout récemment, l'association Framasoft a publié un annuaire sur des structures d'accompagnement au numérique libre dans toute la France. Donc cet annuaire, il n'est pas exhaustif dans le sens que sont référencées uniquement les structures qui ont répondu à un questionnaire proposé par l'association. Néanmoins, c'est un annuaire qui est hyper intéressant parce qu'il y a des dizaines et dizaines des structures qu'on peut découvrir par ordre alphabétique, par thématique, par périmètre d'action, par adresse du siège, etc. Et on, du coup, pourquoi je vous parle de cet annuaire, c'est parce que notre administrateur Laurent Costi de l'April, qui connaît Jean-Marc et qui te passe le bonjour. Il me dit qu'il y a eu un très bon souvenir de l'intervention logiciel libre à Loubapar le 29 et 30 avril 2011. Donc ça remonte à il y a un moment. Et c'est Laurent qui propose cette question, une question difficile, il dit. Comment pourrions-nous toutes et tous faire pour mettre encore plus de liens entre tous les acteurs et toutes les actrices de l'accompagnement, par exemple les structures recensées dans cet annuaire. Quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place? Donc je laisse la parole à Jean-Marc et puis je fais bien sûr intervenir aussi Anne-Cécile et Denis.
Euh, c'est vrai que c'est une question difficile que pose Laurent. Je ne suis pas sûr que j'aurai une réponse très pertinente à donner. C'est vrai que ça pourrait être important de coordonner une forme effectivement de mutualisation des idées, des ressources disponibles autour de cette envie qu'on a de diffuser autant que faire se peut la pratique et l'usage des logiciels libres dans les associations au niveau de tous les territoires francophones déjà. Après, il existe peut-être déjà des choses de type le site de l'April. Moi, c'est aussi au travers de l'April que j'ai rencontré Laurent, que j'ai pu aussi m'intéresser à un certain nombre d'initiatives, commencer par la revue de presse, l'émission Libre à vous aussi. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent quand même servir, je pense, à rassembler. Alors après, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus direct, plus efficace? C'est difficile à dire. C'est déjà bien qu'on y réfléchisse et qu'on ait des initiatives comme ça qui peuvent nous parler et nous aider à dépasser un petit peu nos propres boutiques et nos propres préoccupations de territoire. Mais c'est vrai qu'il faut garder l'oreille attentive à ça, à ces initiatives, et essayer de porter, d'amener aussi sa pierre un peu à l'édifice. Mais de toute façon, on a en face de nous des logiques commerciales tellement puissantes économiquement que vraiment faut vraiment serrer les coudes. C'est vraiment une histoire de liens, de relations. De relations à tisser entre des individus, des gens qui partagent la même préoccupation de reprendre un peu de contrôle dans cette folie mondiale qui commence à ne plus dont de moins en moins de gens comprennent de moins en moins de gens, je dirais, sont indifférents à ce qui est en train de se produire, je pense.
Ouais. Merci Jean-Marc. Je laisse la parole à Anne-Cécile, parce que même tu me disais, je pense au tutoyement, c'est plus simple, même si tu me disais que vous occupez de théâtre, d'éducation populaire, mais vous êtes aussi maintenant vraiment convaincu. Tu parlais d'affirmation à chaque fois que vous parlez d'informatique libre. Est-ce que par exemple vous envisagez de mettre votre pierre à l'édifice, par exemple en mettant encore plus en avant les outils que vous utilisez, pourquoi les utiliser, est-ce que tu penses qu'il y a un rôle qu'une association qui ne s'occupe pas d'informatique peut quand même jouer sur le terrain, auprès de ses membres, auprès du grand public?
Oui, en tant qu'association d'éducation populaire, on participe à différents événements qui interrogent de toute façon toutes ces questions et qui participent à l'émancipation. Donc, je pense qu'il y a des points de rencontre. Maintenant, je pense que si on fait des choses, on ne le fait pas consciemment en portant le livre. C'est vrai que nous, ce qui nous motive, nos moteurs, c'est le théâtre, c'est la création artistique. Mais voilà, comme je le disais, il y a des bénévoles de l'ADEC qui ont construit un logiciel d'éclairage et de régie de spectacle et qui tentent de le maintenir, de le développer. Et donc sans doute quelque part, il y a des petites comme ça ouvertures qui font qu'on met aussi les mains dedans, j'ai envie de dire. Mais je sais pas. Après, quand j'entendais quoi faire tous ensemble, c'est vrai que on sait dans nos mouvements que la recherche-action, c'est ce qui se fait le mieux, quoi. C'est quand on est en action ensemble et qu'on réfléchit aussi avec l'expérience partagée qu'on avance collectivement. Alors après, je laisse aux associations qui sont entièrement tournées vers le numérique le soin de nous concocter des fêtes et des rencontres nationales qui pourraient mêler tous les acteurs, qu'ils soient artistiques, culturels, sportifs ou informatiques.
L'intérêt de votre choix, pour moi, c'est la façon dont vous le soutenez, vous le défendez. C'est-à-dire que votre contribution la plus importante peut être vraiment la contribution de témoignage. Voilà, c'est une association qui n'a absolument rien à voir avec l'informatique et pourtant vous avez complètement adhéré à l'éthique, donc vous pouvez témoigner, vous pouvez Loubapar par exemple vous contacter pour que vous puissiez contribuer à rassurer les associations, à montrer comme finalement c'est possible de le faire, c'est possible d'utiliser des logiciels libres, d'aider, d'accompagner, de faire des formations. Et donc, je pense que vous avez effectivement un rôle à jouer par rapport à votre retour d'expérience. Je laisse la parole à Denis, toujours à ce sujet, cette question difficile. Est-ce que c'est difficile pour toi aussi, Denis ?
Non. Ah non, parce que nous, on a la chance d'avoir fait que du logiciel libre et faire que ça, donc c'est naturel. Donc on accompagne déjà les gens, on leur présente les choses, on fait des événements pour leur présenter. Après oui, on pourrait faire des événements un peu plus cunéléniques, on va dire, pour faire aussi du spectacle, etc. Ça va voir, pourquoi pas. Mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, on est bloqué sur toutes les actions. Donc bon, le jour où on reprendra, on essaiera de faire des choses bien et mieux. Après, pour ceux qui veulent vraiment s'engager pour travailler à améliorer l'objet du logiciel libre d'association, il y a... Vous participez au groupe de travail, un libre association, il n'est pas réservé aux gens de l'April. Donc libre-association.info, il y a un truc s'abonner quelque part, je crois. Et là, on peut discuter entre gens, donner des conseils sur les associations, dire les problèmes qu'on rencontre, etc. Et que des gens qui sont motivés pour travailler là-dessus, qui sont sur la liste, donc il faut en profiter.
Excellente suggestion, Denis, merci beaucoup. J'ai une question pour Anne-Cécile, qui est sur le salon de chat. Est-ce que tu penses, Anne-Cécile, que la valeur de partage, qu'on imagine important pour le théâtre, joue dans votre choix, dans le choix d'ADEC aussi?
Oui, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, enfin après c'est très large le partage. Je pense que oui, dans les critères dans le champ de valeur voilà qui nous a rapprochés, il y a bien sûr que ce soit ouvert et que tout le monde puisse être acteur de ça. Moi je crois que c'est plus ça que finalement le partage est très large, mais je pense en tous les cas de pouvoir permettre à tout le monde de prendre sa place aussi dans cette utilisation du numérique. Ça a eu une grande importance parce que ce soit voilà dans le logiciel PMB ou maintenant sur notre site SPIP ou dans d'autres outils qu'a pu nous partager Loubapar ou que l'on peut construire nous-mêmes maintenant, c'est vraiment se dire ben voilà, on les adapte, on les co-construit, on y contribue, l'humain il existe à l'intérieur de tout ça quoi.
Ça pouvait pas être mieux résumé pour la fin de ce sujet principal. prendre sa place, une place active et pas passive, c'est ça aussi qui permet l'informatique libre. Donc on est arrivé à la fin de ce sujet principal. Je vous remercie vraiment beaucoup pour avoir accepté notre invitation et pour votre intervention. Merci et à très bientôt et bon courage pour tous vos projets.
Merci.
Merci.
Nous allons maintenant faire une pause musicale et pour cela, je vais confier la parole à notre jeune invitée, Tania.
Nous allons écouter Sylvain Swald par Otto Almen. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Thank you.
Nous venons d'écouter Sylvain Waltz par Otto Almen, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org.
Merci Tania qui a eu, on m'a dit, 10 ans hier, donc je te souhaite un très joyeux anniversaire.
Merci.
Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc sur le thème Dépendance informatique, une opportunité à saisir. Bonjour Luc.
Oui, bonjour Isabella. Alors je sais, je dois toujours venir physiquement dans le studio. Je suis pas là, mais enfin, il y a plus important parce que j'aurais besoin que tu me trouves un bon avocat parce que je suis en garde à vue là. Alors je l'ai déjà expliqué dans une précédente chronique l'importance de savoir s'excuser pour réussir, mais là je vais vraiment en avoir besoin. Ça n'est pas suffisant pour autant et je me suis dit que pour enfin devenir milliardaire, il fallait que je prenne les meilleures stratégies de réussite et que je les combine habilement pour former une killer app qui nique tout. Et il y a un truc essentiel pour réussir, c'est d'exploiter la dépendance. Récemment, le Sigref, qui est une sorte de poney club pour les DSI de grosses boîtes françaises, s'est plaint de se faire tondre par le cloud alors qu'ils leur ont sciemment livré le contrôle de leur informatique. L'informatique qui fait du fric fonctionne de longue date comme la mafia. Microsoft casse les genoux des constructeurs de PC qui proposent des alternatives à Windows et rackettent ceux qui font du téléphone Android. Oracle dégaine sa clause d'audit comme un cran d'arrêt pour forcer ses clients à passer sur leur offre cloud. Ça ferait un bon film de gangster avec Edison qui débarquerait dans un data center en déclarant « C'est une jolie infrastructure que vous avez là, ce serait dommage qu'elle se casse. Vous devriez plutôt la confier à des pros parce que c'est fragile ces trucs-là. » Et puis, il y a bien entendu la dépendance induite de Facebook. Son directeur de la monétisation la compare à celle de la clope et a claqué la porte il y a peu en expliquant que c'est une stratégie volontaire qui met la démocratie en danger. J'ai aussi trouvé l'inspiration chez Purdue Pharma, qui a réussi à convaincre les Américains que les antidouleurs aux opioïdes, c'est top. Alors du coup, je me suis dit qu'il y avait un super business model à la clé, un truc qui mixte dépendance d'un réseau social avec celle de la drogue et qui ajoute une dose de contraintes crapuleuses. Du coup, j'ai créé un super réseau social qui facilite l'achat de drogue sur le darknet avec des bitcoins. Les utilisateurs peuvent valoriser leur toxicomanie aux yeux de leurs amis de débauche, partager ce qu'ils consomment et ajouter des photos et des vidéos de situations humiliantes quand ils sont défoncés. Il y a des filtres pour avoir la classe même quand on a la tête dans les toilettes. On peut générer des mèmes, lancer des défis et gagner des badges quand on fait une overdose. L'exposition de chacun est favorisée quand il contribue à faire grossir le réseau et quand il entraîne autrui à tester un truc plus dur. J'utilise d'ailleurs du machine learning pour définir pour chaque utilisateur le meilleur cheminement pour atteindre la dépendance la plus forte. J'ai appelé ce module Parcoursup. Dans la roadmap, j'ai des connecteurs vers le bon coin ou eBay pour que les clients fauchés puissent revendre les jouets de leurs gamins. Peut-être même revendre les gamins eux-mêmes sur le darknet un jour, pourquoi pas. Mais ce n'est pas tout. L'application siphonne toutes les données personnelles pour connecter les gens ensemble, bien sûr, mais surtout pour exercer un chantage frontal à quiconque serait tenté de lever le pied. Si tu pars, je lis toutes tes infos à ton carnet d'adresse. L'application est aussi impossible à désinstaller parce qu'elle aura chiffré le disque et récupéré tout ce qu'elle peut. Les dealers peuvent payer pour acquérir des clients et les motiver à consommer plus et plus dur. Une partie des bénéfices alimente une caisse spéciale qui sous-traite automatiquement sur le darknet le cassage de gueule des concurrents et des mauvais payeurs. Pour le nom, je sais pas, peut-être Fonce de Online ou Toxicorama, mais bon, ça fait trop 20e siècle, je trouve. Mon problème, c'est les gendarmes. Ils sont pas open sur la dépendance. Rien qu'un simple antivirus qui les forcerait à changer de Windows, ils n'en veulent pas. Pourtant, le crack, c'est leur truc. Malheureusement, c'est celui d'EncroChat qui les fait kiffer. Et c'était avec ça que je négociais avec mes fournisseurs et avec mon business Angel Dust sud-américain. Depuis, mes plans prennent l'eau comme un narcosub fissuré. Je ne peux même pas m'appuyer sur le secret des affaires qu'on vient de renforcer, mais c'est toujours pas suffisant. J'avais un plan de secours consistant à proposer des faveurs sexuelles au ministre de l'Intérieur pour arranger mon cas, mais je me suis fait disrupter les os de la face par un tiers de LDB lors de mon arrestation. Le policier qui m'a notifié ma garde à vue a même parlé d'admission post-bac. Je suis tout bonnement foutu, et après, on se demande pourquoi la Startup Nation ne décolle pas.
Merci Luc, tu as une vie fascinante.
Oui, c'est pas facile.
Oui, j'imagine. Merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt.
Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur est 09 72 51 55 46. L'émission et plus globalement la radio est contributive. N'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Vous pouvez contribuer à l'émission. Vous trouverez sur les sites april.org et causecommune.fm, cause-commune.fm, les différents moyens de nous contacter. Vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'April et ou aider la radio par un don ou par des actions bénévoles. L'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune Radio Associative. La radio a besoin de soutien financier pour notamment payer les frais matériels, le loyer du studio, la diffusion sur la bande FM, les serveurs. Nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don. Toutes les infos sont sous le site causecommune.fm. Vous pouvez aussi aider en consacrant du temps. Passons maintenant aux actualités à venir pour l'April et le monde du libre. Quoi de libre ? L'association Interop, qui promeut le logiciel libre pour la santé, a lancé une pétition officielle via le site web du Sénat pour obtenir la création d'une commission d'enquête sur la gestion des données de santé des Français et des Françaises par la société Microsoft. L'April soutient cette initiative. Nous vous appelons à signer la pétition. Libre Planète est la conférence annuelle de la Free Software Foundation, fondation pour le logiciel libre. Normalement organisée en mars à Boston, en 2021, elle aura lieu sans doute exclusivement en ligne. Il est possible de soumettre une intervention, sans doute en anglais, jusqu'à mercredi 11 novembre. Des états généraux du numérique libre et des communs pédagogiques sont proposés sur le web mardi 3 novembre 2020 sur l'impulsion initiale de l'association Faire École Ensemble qui facilite les collaborations entre les citoyens et la communauté éducative. Cette rencontre se veut être une contribution originale aux états généraux du numérique organisés par le ministère de l'Éducation nationale et s'adresse à un public large, enseignants, parents d'élèves, acteurs de l'éducation populaire, médiateurs numériques et toute personne intéressée par ces thèmes. L'association Framasoft vient de publier la première version du logiciel Mobilisons avec un Z, une alternative libre et décentralisée pour gérer ses événements, ses profils et ses groupes. Nous vous invitons à la découvrir. Une nouvelle réunion du groupe Sensibilisation de l'April, ouverte à tout le monde, aura lieu jeudi 29 octobre à 17h30 à distance. Au programme, un atelier d'écriture collective expliqué de façon simple et efficace les principaux dangers informatiques. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Jeux du GNU, jeu de tableau coopératif pour sensibiliser le grand public aux enjeux de l'informatique libre. J'en ai parlé un peu plus parce que je suis l'animatrice de cette réunion. Retrouvez tous les autres événements sur l'agenda du libre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Noémie Berger, Jean-Marc Briand, Anne-Cécile Voisin, Denis Dordogne, Luc, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à Sylvain Koutzmann, Antoine, Samuel Laurent, Olivier Ambert, Élodie Daniel Giraudon, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet et l'émission d'aujourd'hui en podcast individuel par sujet. Vous retrouvez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondre directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. On me dit qu'on est légèrement en avance et donc je passe la parole à Fred Couchet, délégué général de l'April.
Merci Isa, tu as été tellement efficace comme d'habitude qu'on est un petit poil en avance. Alors je vais me permettre d'improviser. Alors désolé Tania, je ne t'avais pas prévenu, mais Tania, on a réactivé ton micro. Juste, il nous reste 2-3 minutes pour qu'on soit dans les temps, parce que sinon, il va falloir meubler avec autre chose. Donc déjà, Tania, j'ai précisé que voilà, Tania est aujourd'hui actuellement, elle a eu 10 ans hier. Et donc, on est en période scolaire, hein, et donc j'en ai profité. En fait, c'est ma voisine, hein, Tania. C'est une fan de radio, et donc elle est intervenue la semaine dernière pour présenter la pause musicale aujourd'hui. Je voulais savoir, en fait, voilà, pourquoi déjà tu aimes la radio ?
Parce que c'est un moyen de communiquer avec d'autres personnes, autre que la télévision.
Alors, qu'est-ce que tu reproches à la télévision par rapport à la radio ? selon toi?
Ben, le fait est que tu peux être ben par exemple tu peux parler sans que les gens voient ton visage ou des choses comme ça, par ce qui est à la télévision n'est pas possible.
D'accord, donc c'est plus effectivement c'est une des qualités de la radio, c'est qu'on peut arriver habillé comme on veut, on n'a pas le stress de l'image, etc. Et donc c'est de ce point de vue là c'est plus intéressant pour les personnes invitées. Et quand on a déjà parlé de l'émission ou même de la radio, tu m'as dit que t'écoutais beaucoup la radio. Donc quel type d'émission tu écoutes?
Ben j'écoute ben déjà ce que je fais moi quand j'écoute la radio. Je change souvent de radio, c'est-à-dire que je tourne. Enfin, une fois que je me lasse d'une radio, et ben j'en cherche une autre sur ma chaîne IFI pour pouvoir tourner. Du coup, j'ai pas d'émission, mais j'aime beaucoup les émissions qui racontent des histoires.
D'accord. Alors c'est des histoires de l'histoire de France ou du monde, ou des histoires policière, des histoires politiques. Je crois que t'es quand même passionné de politique. Hein. Alors je suis désolé, je précise pour les personnes qui nous écoutent, c'est un petit peu un piège, enfin pas un piège pour Tania, mais elle n'était pas du tout prévenue. Mais je crois que t'aimes beaucoup ces histoires, on va dire, c'est les enquêtes notamment. Tu m'as parlé d'une émission sur France Inter, je crois.
Oui, ça s'appelle. Je me souviens plus tout à fait du nom.
Peu importe.
C'est sur France Inter, c'est ça. Et j'écoute ça, c'est des histoires, des histoires policières, mais qui se sont vraiment passées. Et du coup, bah, moi, j'aime bien écouter ça. Et oui, je suis passionnée de politique depuis à peu près la période des attentats en 2015. Ça m'a sensibilisée à la politique.
Alors, on va préciser, bon, en 2015, si on dit que tu as 10 ans, tu avais 5 ans à l'époque, mais on va un peu préciser le contexte. À l'époque, on se rappelle en 2015, bon, il y a eu en janvier, évidemment, les attentats contre Charlie Hebdo, mais là, tu fais plus référence, sans doute, aux attentats de novembre, notamment au Bataclan Paris, et puis il y a aussi Saint-Denis, parce qu'en fait, le mercredi, je crois, je ne sais plus quelle date exactement, il y a eu l'assaut rue de Corbillon, donc pas très loin d'où tu habitais, ou pas très loin d'où j'habite. Donc, c'est à ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser à ce sujet. Donc, vraiment très très tôt quoi. Alors on me dit que c'est peut-être affaire sensible.
Oui, c'est ça.
Voilà, alors on félicite Adrien qui est en formation et je le salue, formation Régie qu'on va retrouver bientôt donc en Régie, qui est un bénévole de l'April, qui a un beau t-shirt Fondation pour le logiciel libre. Donc voilà, tu t'intéresses à la politique et donc on t'a convaincu, en tout cas on t'a proposé peut-être de faire bientôt une petite chronique dans l'émission Carte Blanche de Lucas Malter. Alors j'en profite pour signaler donc Lucas Malter fait sa carte blanche maintenant de 7h à 9h en direct, en matinale le lundi, rediffusion de 12h à 14h. C'est vraiment une matinale très intéressante. Donc tu es en train de préparer un petit sujet et tu vas parler a priori des élections municipales de Saint-Denis, donc là où on vit à Saint-Denis. Pourquoi est-ce que tu veux parler de ça?
Parce que déjà cette année elles ont été reportées et j'aimerais en parler parce que nous à Saint-Denis ça faisait extrêmement longtemps que les communistes, que c'était des maires communistes, et là ça a changé avec monsieur Hanotin.
Alors, je me souviens plus de son prénom d'ailleurs, Mathieu Hanotin, voilà, qui est parti socialiste, ancien directeur de campagne de Benoît Hamon lors de la présidentielle. Ah oui, en fait, j'avais oublié qu'on a un troisième Dionysien, en fait, Étienne est aussi. Mais je vais pas noter la remarque qu'il a faite, c'est réservé aux gens à. En mode tapis, merci. C'est réservé aux gens qui étaient sur le web chat. Donc, si vous voulez savoir ce que Étienne a dit, vous allez sur causecommune.fm, bouton de chat. Alors, on va finir par une petite question. Donc là, on entend le générique de fin en mode tapis. Une petite question un petit peu... Bon, voilà, Tania, on m'a noté Tania et les logiciels libres. Est-ce que avant de me rencontrer, est-ce que tu connaissais les logiciels libres ou pas du tout? Est-ce qu'à l'école, t'en utilises, par exemple? Même si, évidemment, t'es en primaire... Est-ce que tu savais ce que c'était avant? Non.
Non.
D'accord, donc tu as découvert ça. Je crois que d'ailleurs, bon, à la maison, chez toi, bon, principalement, c'est des systèmes. Tu utilises, par exemple, ta maman utilise openoffice.org, qui est une suite bureautique libre.
Je sais pas.
Tu sais pas? Bon. Alors, en fait, la maman est arrivée pour derrière la vitre et on essaie de la convaincre de passer à LibreOffice, qui est une évolution de... En tout cas, bon, voilà, c'est... qu'est-ce que me dit Marie-Odile sur le salon web? Ce n'est plus Paris. La France, ce n'est plus Paris, c'est désormais Saint-Denis. D'accord. Alors, dernière question. Comment tu as... tu as trouvé cette expérience, qu'aujourd'hui on va préciser que non seulement tu es intervenu tout à l'heure sur la pause musicale, tu interviens là en improvisant, et donc c'est pas du tout évident d'improviser quand on a, même quel que soit l'âge d'ailleurs, mais d'autant plus que quand on a 10 ans, tu as joué tout à l'heure un petit peu avec la régie, et peut-être que d'ailleurs tu seras une forme future régisseuse et une future animatrice de radio. Comment t'as trouvé cette expérience? Est-ce que ça correspond par rapport à l'image que tu te faisais de la radio?
J'imaginais pas du tout la radio comme ça, j'imaginais pas un studio comme ça. Et puis au début, je me demandais surtout, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la radio parce que je me demandais comment on pouvait diffuser quelque chose comme ça. Parce que la télévision, je savais, on était filmé, mais à la radio, je me demandais comment on faisait.
D'accord. Et là, donc, t'as vu effectivement comment ça se passe avec la régie. On est plusieurs avec un ordinateur pour pouvoir lire sur le salon web. Il y a diffusion FM et, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, Cause Commune est aussi en DAB+, 24 heures sur 24, et aussi en diffusion sur Internet. On a des gens qui nous écoutent sur Internet. Bon, en tout cas, j'étais ravi que tu participes à cette émission, et j'espère qu'on aura l'occasion d'écouter ta chronique avec Lucas Malter et que tu reviendras aussi. Oui ? D'accord, oui. Bon, elle fait oui. Bah en tout cas, merci Tania. Donc, comme disait ma collègue, notre émission se termine vraiment ce coup-ci. Hein. Donc, la prochaine émission aura lieu en direct mardi 3 novembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal sera une diffusion de la spéciale à playlist de Libre à vous que j'ai enregistrée récemment avec Valentin. Donc, Valentin, c'est l'équipe des Joyeux Pingouins en famille. Et là, en plus, j'ai eu le plaisir de faire ça au studio. Donc, nous avons pris des photos. Donc, nous mettrons en ligne des photos de Valentin. Vous verrez comment Valentin travaille pendant qu'il analyse cette playlist. Donc, la playlist de Libre à vous, c'est les musiques libres qu'on a déjà diffusées dans l'émission, mais commentées par Valentin. Et vous verrez qu'il est absolument exceptionnel. Il arrive à reconnaître des instruments. Moi, j'avais préparé des références. En fait, pas besoin de préparer des références. Il les reconnaît et il est capable de discuter dessus. Donc voilà, c'est la semaine prochaine. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 3 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien.